Le journal Sébastien Legenis, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, 13 cercueils alignés dans la cour des Invalides. Hommage national aujourd'hui aux soldats morts. La semaine dernière au Mali, 7 d'entre eux venaient du régiment de Pau. Dans ce journal, reportage dans un village tout près de cette base militaire, touché au cœur par ce drame. Un village de pompiers en plein Paris, c'est l'ambition d'un syndicat qui entend occuper la place de la République pendant toute la semaine pour réclamer une meilleure prime du feu. À suivre également le MoDem dans une mauvaise passe. François Bayrou risque une mise en examen cette semaine. La crise économique au Liban qui craint la faillite après 47 jours de manifestations. Et puis pour finir, du théâtre avec la dernière mise en scène très réussie du directeur de l'Odéon à Paris.
Au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50. Aujourd'hui, l'économiste Thomas Piketty, auteur de Capitalisme et idéologie, publié aux éditions du Seuil.
France Inter.
Et l'on commence, Sébastien, avec l'hommage de la nation à ses soldats tombés au Mali.
Ces 13 militaires morts il y a une semaine, jour pour jour, dans un accident entre deux hélicoptères alors qu'ils pourchassaient des djihadistes de l'État islamique. Leurs dépouilles ont été rapatriées hier depuis la base militaire de Gao et seront cet après-midi au centre de la cour des Invalides sous un drapeau bleu-blanc-rouge. Une cérémonie d'hommage national présidée par Emmanuel Macron devant quelques 2500 personnes. Cérémonie en présence du président malien et en présence des maires de chaque commune où sont installés les régiments touchés par ce drame. Parmi eux, le maire de Mazerolles, petit village tout près du 5e régiment d'hélicoptères de combat de Pau. Mazerolles où vivait l'une des victimes, l'adjudant-chef Julien Carrette. Notre reporter Faustine Calmel s'est rendue auprès des habitants.
Nous sommes ici à 10 km du 5e, comme l'appellent les habitants, 1120 personnes, dont une quinzaine de familles de militaires qui perçoivent régulièrement le bruit des hélicoptères.
Vous savez, c'est des gens extraordinaires. Je souhaite à tous les maires d'avoir des familles comme ça.
Jean-Léon Condéran, maire de Mazerolles, suivra l'hommage aux Invalides.
Et c'est dans ces moments que la solidarité nationale, on la ressent. Et j'estime que des cérémonies comme ça sont indispensables.
Pour honorer les mémoires de ceux qui sont partis et que Michel Dufault, président de l'association des anciens combattants de la commune, côtoyait.
Certains étaient impliqués dans la vie du village et tous venaient aux cérémonies du 11 novembre et du 8 mai. Et ça nous rappelle donc à tous les risques qu'ils prennent en partant comme ça en OPEX.
Ces opérations extérieures, Jean-Christophe Gien, ancien du 5e RHC, y a participé jusqu'à sa retraite il y a 5 ans. Il était au Mali, opération Serval en 2013.
On en a fait tous, on est tous partis. On a eu la chance de revenir. Eux non. Après, c'est pour qu'on soit là, qu'on inscrive leur nom sur les monuments aux morts. C'est notre combat, nous. Maintenant qu'on a déposé le treillis, déposé le béret, qu'on mettra avec fierté mardi soir.
Demain, au lendemain de l'hommage national, le village de Mazerolles se recueillera à son tour pour Julien Carrette et tous ses frères d'armes.
Le reportage de Faustine Calmel, c'est cet après-midi à Paris, à 15h, que la cérémonie commencera, donc éloge funèbre du président Macron, qui remettra ensuite la Légion d'honneur à titre posthume à chacun des 13 soldats. Auparavant, à 11h30, les Parisiens pourront eux aussi se recueillir au passage des cercueils sur le pont Alexandre III. L'hommage sera retransmis sur écran géant depuis l'esplanade des Invalides.
Il est 7h33, eux vont occuper la place de la République à Paris, Sébastien, et y rester au moins jusqu'aux grèves de ce jeudi.
Les sapeurs-pompiers veulent en effet ouvrir le bal de cette semaine sociale très chargée. Il s'agit là des pompiers de région, pas ceux de Paris qui sont militaires. Un syndicat notamment a pris le flambeau de la lutte, le syndicat Sud, minoritaire mais qui veut frapper fort, occuper la très symbolique place de la République toute la semaine, jour et nuit, afin de dénoncer leurs conditions de travail et réclamer de meilleures primes. En octobre dernier, on s'en souvient, les pompiers avaient déjà manifesté, mais sans rien obtenir, Rémi Brancato.
Ils étaient 7 à 10 000 pompiers dans les rues de Paris le 15 octobre et la manifestation s'était alors conclue par des tirs de gaz lacrymogène de la police.
Malheureusement, on a vite atteint les limites des manifestations où on se déplace d'un point A à un point B. Il n'y a pas de plus-value.
Alors, Didier Dupire, secrétaire général dans le Rhône du syndicat Sud Pompiers, sera dans la capitale à nouveau, place de la République, 50 à 100 pompiers se relaieront dès 14h aujourd'hui. aujourd'hui et jusqu'à vendredi.
C'est le village des soldats du feu. 24 heures sur 24, on couchera là-bas et le point d'orgue qui sera le 4 décembre, c'est la Sainte Barbe, la Sainte Patronne protectrice des pompiers, pour présenter à l'ensemble de la population les difficultés en termes d'effectifs et les sujets du moment sur les retraites. On demande une revalorisation de la prime de feu à hauteur de 28% comme d'autres corporations des métiers de la sécurité.
Le syndicat Sud est seul à organiser ce rassemblement. Les 7 autres organisations qui forment l'intersyndicale des pompiers se réunissent aujourd'hui. Elles refusent les propositions du ministère de l'Intérieur d'augmenter de 1 à 5% cette prime de feu, insuffisant pour les pompiers qui y préparent des actions pour la Sainte-Barbe et appellent surtout, tout comme Sud, à rejoindre les cortèges de jeudi contre la réforme des retraites.
Rémi Brancato, notez que les secouristes de la sécurité civile de Marseille ont été touchés de plein fouet cette nuit par les intempéries dans le sud-est de la France. On a appris que 3 d'entre eux avaient été tués dans un accident d'hélicoptère encore inexpliqué. Dans la journée, les inondations avaient déjà fait 2 morts dans le département du Var. À noter la fin de la vigilance rouge dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. Le bilan des intempéries à lire sur le site d'Inter, franceinter.fr. On en vient maintenant aux menaces judiciaires très lourdes qui planent au-dessus du MoDem. Le sort de François Bayrou paraît en effet scellé. Le président du MoDem, mais aussi Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard, doivent être convoqués cette semaine par la juge d'instruction chargée de l'enquête sur les assistants parlementaires européens. Une mise en examen semble de plus en plus inévitable. Tous les 3 réfutent avoir commis une quelconque irrégularité, mais l'instruction a mis au jour des éléments qui pourraient les mettre en difficulté, Sylvain Tronchet.
Il y a d'abord les auditions de nombreux anciens assistants parlementaires ou salariés du MoDem. Certains ont raconté aux enquêteurs comment ils avaient signé des contrats d'assistants pour un eurodéputé qu'ils ne voyaient en réalité jamais. Ils travaillaient au service exclusif du MoDem, mais étaient payés pour partie en général par le Parlement européen. L'un de ces témoignages est particulièrement embarrassant pour Marielle de Sarnez. Une employée du parti qui gérait son agenda a raconté qu'elle était la gouvernante de l'actuel député, s'occupant de ses affaires personnelles jusqu'au suivi de la construction de sa maison en Grèce. Sylvie Goulard, elle, a dû admettre devant les services du Parlement qu'elle avait rémunéré son assistant pendant plusieurs mois alors qu'il ne travaillait plus pour elle. Quant à François Bayrou, il n'était pas député européen, mais en tant que chef du parti, pouvait-il ignorer la situation? La juge semble penser que non. Dans un mail saisi lors d'une perquisition, son ex-directeur de cabinet écrit « Les députés européens se sont engagés à consacrer 1/3 de la dotation pour payer leurs assistants au salaire des collaborateurs du MoDem ». On peut difficilement faire plus clair.
Sylvain Tronchet de la cellule d'investigation de Radio France. Justice encore avec à suivre aujourd'hui une nouvelle demande de remise en liberté de Patrick Balkany après une première décision de maintien en détention, c'était il y a 2 semaines. Cette information également de nos confrères de Mediapart dans l'enquête autour du financement libyen supposé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Un ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy, Thierry Gobert, aurait touché en 2006 un virement de 440 000 euros provenant du régime de Muammar Kadhafi, un virement ayant ensuite transité par un compte appartenant à l'intermédiaire Ziad Takieddine. Et puis c'est un tournant politique sur l'île de Malte. 2 ans après l'assassinat de la journaliste d'investigation Daphne Caruana Galizia, le premier ministre maltais Joseph Muscat a annoncé, lui, qu'il allait démissionner en début d'année prochaine.
Et Pierre Aski reviendra dans Géopolitique après le journal de 8h. Direction le Liban maintenant, Sébastien, le Liban au bord de la faillite.
47e jour de contestation des Libanais qui descendent presque tous les jours dans la rue pour dénoncer l'incurie, la corruption de leur classe politique. Le Liban en pleine crise financière, surendetté, ravagé par les inégalités et le chômage. Le pays du cèdre au bord du gouffre, c'est le reportage d'Aurélien Colli.
Manifestation devant une banque accusée de vol parce qu'elle applique, comme toutes les banques désormais, des restrictions drastiques sur les transactions, les virements et les retraits, des mesures qui touchent les particuliers comme les entreprises.
C'est lamentable, on ne peut pas tirer. Si on a besoin de liquide, il y a un certain limite, on ne sait pas comment ça va aboutir.
Je suis inquiète parce qu'il y a des entreprises qui ont payé la moitié du salaire. On ne sait pas c'est quoi vraiment la situation du pays.
Crise financière avec un État en faillite, écrasé par sa dette publique, crise de l'économie. l'économie aussi, qui dépend à 90% des importations et qui est à l'arrêt depuis la mi-octobre avec la contestation populaire et l'incapacité des politiques à s'entendre sur un nouveau gouvernement, irresponsable selon Sybille Risk, analyste dans un groupe d'influence de la société civile.
Aujourd'hui, on fait face à un risque de pénurie de médicaments. Les supermarchés sont déjà à court de beaucoup de produits. Notre électricité est entièrement tributaire d'importation de combustible de l'extérieur. Malheureusement, il n'y a pas de réponse. On est même face à un déni des pouvoirs en place.
50% des entreprises libanaises sont menacées de fermeture si la situation ne s'améliore pas rapidement. Loin du micro, un banquier compare même le Liban à la Grèce de 2008. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Et puis à l'étranger, encore le retour des manifestations monstres à Hong Kong. 380 000 personnes dans les rues hier. Les militants pro-démocratie qui appellent aujourd'hui à la grève générale.
Et on termine, Sébastien, au théâtre avec la dernière création du directeur de l'Odéon à Paris.
Nous, pour le moment, c'est la nouvelle pièce de Stefan Braunschweig. Il met en scène pour la quatrième fois une pièce du Norvégien Arne Ligre. Un spectacle brillant, selon Stéphane Capron.
Dans la première scène, 5 chaises de jardin sont plongées dans l'eau. Les comédiens resteront ainsi pendant toute la durée du spectacle à patauger dans les remous de la vie. La pièce parle de nous, tout simplement, de la mort, de la maladie, de la solitude, de l'amour, de l'absence, du deuil. Les personnages s'aiment, se détestent, se trahissent et se séduisent. Arne Ligre observe au scalpel les relations humaines dans une langue simple, de tous les jours, traduite par Stéphane Braunschweig.
Il parle vraiment de la vie contemporaine, en fait. Ça nous renvoie à une sorte de miroir de nos vies où, qui sont beaucoup moins stables. Avant, les gens passaient toute leur vie dans le même couple, dans la même entreprise. Aujourd'hui, il y a une fluidité, une précarité aussi, une fragilité. Et je dirais que ce qu'il nous montre, c'est vraiment cette fragilité de l'existence, cette liquidité de la vie, comme dit un grand sociologue qui s'appelle Zygmunt Bauman.
La scénographie est somptueuse, elle accompagne avec subtilité la construction rigoureuse du texte d'Arne Ligre. Stéphane Braunschweig signe là l'une de ses plus grandes mises en scène depuis son arrivée à la tête de l'Odéon Théâtre de l'Europe.
Nous, pour le moment, c'est jusqu'au 14 décembre aux ateliers Berthier de l'Odéon à Paris et c'est un spectacle France Inter.
Merci Sébastien Legénie.